On revient aux Bleus, la victoire hier face au Danemark 2-1. Et pour l'instant, chez les Bleus, il n'y a qu'une seule star depuis le début du mondial.
Kylian, c'est un joueur hors norme.
Le but de la tête de Mbappé avec le poteau rentrant, ça fait 3-1.
Il a cette capacité à pouvoir être décisif.
Mbappé, l'accélération, le dédoublement. Théo, le centre à retrait, la frappe de Mbappé. Et le but.
Je crois qu'avec un joueur comme Kylian, il est difficile de mettre des limites.
Quand Kylian est à ce niveau-là, c'est également une forme de leadership.
Griezmann qui va se centrer fort devant le but. Mbappé ! Oui ! Le doublé !
Oui !
De Mbappé !
Il s'est fixé cet objectif de la Coupe du Monde et l'équipe de France a et aura besoin d'un très bon Kylian.
Moi, tu me parles pas d'âge.
Kylian Mbappé, auteur donc d'un doublé hier, 3 buts depuis le début de la Coupe du Monde, qui donc répond présent. Alors c'est pas le seul dans cette équipe de France, bien sûr, mais c'est clairement celui qui fait la différence. Est-ce qu'avec un Mbappé à ce niveau-là, on redevient automatiquement favori pour la victoire finale dans ce mondial? 32-16 pour participer au débat. Fabrice Hawkins nous rejoint, l'un de nos suiveurs de l'équipe de France. Salut Fabrice.
Ah, salut Jean-Louis, salut à tous.
Salut.
Quelques stats qui font tourner la tête autour de Mbappé en Coupe du Monde.
Eh oui, parce qu'il affole les compteurs, Kylian Mbappé, il affole les statistiques avec le doublé contre le Danemark. Il est désormais l'égal du double Z, le Bondinois est le 7e meilleur buteur de l'histoire des Bleus, avec 31 buts, comme un certain Zinedine Zidane. Il fait même mieux que Thierry Henry en Coupe du Monde, 7 buts contre 6 pour la légende d'Arsenal. À seulement 23 ans, il est à un but. Il a un but de moins que Lionel Messi, pardon, et Cristiano Ronaldo. D'ailleurs, à 23 ans, seul Pelé avait marqué plus de buts que lui dans la compétition planétaire. Avec sa prestation contre le Danemark, enfin, Kylian Mbappé reste sur une impressionnante série de 14 buts lors de ses 12 dernières sélections. On n'avait plus vu ça depuis 1992.
Merci Fabrice. Alors, avec ce niveau-là, est-ce que finalement, Manu, tout le reste, c'est un peu de la littérature, quoi? Peu importe ce qu'on fait autour, quand Mbappé est dans cet état-là, ça va forcément marcher. Qu'est-ce
que t'en penses? Peu importe ce qu'on fait autour, Kylian Mbappé, même si il est extraordinaire, à lui tout seul, il ne gagnera pas la Coupe du Monde. En 2018, il y a quand même pas mal de joueurs qui se sont révélés, qui ont entouré Kylian Mbappé, qui a fait une belle Coupe du Monde également, mais il y en a d'autres également. Et on a
Être solide, oui, mais est-ce qu'offensivement, il ne règle pas tous les problèmes de l'attaque?
Il est extrêmement efficace et surtout, il met le doute en permanence chez l'adversaire. Donc, quand tu as un danger comme ça, tu monopolises à chaque fois deux joueurs dans sa zone, même quand tu as le ballon. Parce que tu sais qu'à n'importe quelle contre-attaque, ça peut aller à 2000 à l'heure. On l'a vu d'ailleurs sur la faute où il aurait dû se faire expulser, le Danois. Mais encore une fois, je reviens. Si je fais un comparatif en 2018, même si je ne peux pas faire beaucoup de comparatifs, parce que c'est complètement différent, je me rappelle qu'il y avait des joueurs aussi qui avaient fait une très belle Coupe du Monde et ça avait permis à Kylian aussi d'être l'élément qui fait passer l'équipe de France en termes au niveau décisif. Mais il a besoin d'avoir un collectif fort autour de lui. C'est la même chose pour Messi, c'est la même chose pour Cristiano Ronaldo, c'est la même chose pour tous les grands joueurs. Regarde, nous, en 98, Zizou, il n'est pas avec nous pendant la moitié des matchs, quasiment, quand il se fait expulser. Il a fallu qu'on prenne, nous, nos responsabilités également. Donc
Emmanu, je vous pose la question aussi différemment. Est-ce qu'il n'est pas le grand bénéficiaire de ce que tu nous racontais tout à l'heure sur la clarification de la façon de jouer? Désormais, on sait exactement comment faire et ça le met, lui, en lumière.
Il n'y a pas que ça. Sur le terrain, je trouve que c'est beaucoup plus simple, mais également en dehors du terrain, j'ai l'impression que les choses sont beaucoup plus faciles à intégrer pour les joueurs. Il y a beaucoup moins d'ego, si vous voulez dire. Sur le terrain, je ne vois pas de problème d'ego particulier, alors que j'en ai vu à l'appel, à foison, lors de l'Euro, là, il y a 2 ans. Et même à l'extérieur du terrain, je voyais qu'il y avait beaucoup de problèmes, de tensions dues à des égos mal placés. Là, ce n'est pas du tout le cas. Donc, pour moi, Kylian Mbappé, qui est décisif à tous les matchs, bien sûr que ça sera lui qui permettra à l'équipe de France d'atteindre son objectif. Mais il aura besoin pour ça aussi d'un collectif fort autour de lui.
Jérémy, est-ce que quand Mbappé comme ça change tout,
Manu, c'est vrai. Enfin, Brésil a son Neymar, l'Argentine a son Messi, nous on a Mbappé. Mais c'est sûr qu'il aura besoin de tout le monde. Et c'est lui qui va porter l'équipe pour essayer de gagner ce mondial. Et avec un Mbappé comme ça, c'est aussi l'équipe l'équipe a plus confiance en elle, je pense. Et j'ai envie de dire aussi, malheureusement, et on a une grosse pensée pour lui, pour Lucas Hernandez, mais j'ai envie de dire, avec l'apport de Théo Hernandez, j'ai l'impression qu'ils s'entendent super bien de côté gauche. Et ça a un apport aussi, c'est un plus pour l'équipe de France, quoi.
Je me rappelle pas la dernière fois où l'équipe de France a joué vraiment avec deux vrais ailiers qui percutent balle au pied et qui te font des 1 contre 1 en permanence. Alors rappelez-moi la dernière fois où l'équipe de France a joué comme ça.
Mais c'est ce que je dis depuis hier soir, quand j'ai dit et que certaines personnes ont trouvé que j'exagérais, où je ne parlais pas d'émotions ressenties sur le terrain, parce qu'évidemment qu'une victoire en Coupe du Monde, c'est une émotion forte. Je parlais juste de jeu, d'attractivité du jeu. Et je disais, depuis 2006, j'ai pas vu une équipe de France à ce point essayer d'être conquérante dans le camp de l'adversaire. Mmh. Et donc en 2006, ça me permet également de te répondre, Manu. Tu avais Ribéry, Malouda, une pointe Thierry Henry et Zidane derrière. C'était un 4-2-3-1 qui, grosso modo, pouvait un petit peu ressembler. En tout cas, tu avais des deux côtés. Quelque chose qui pouvait se passer. Là, quelque chose se passe, c'est un 4-3-3, et évidemment que ça, et des choses très intéressantes se passent, aussi bien du côté de Mbappé que de Dembélé. Après, pour revenir à la question. Voilà, je t'en pose une autre question. Qui est meilleur que lui depuis le début de cette Coupe du Monde? Ça fait une dizaine de jours que ça a démarré. Quel autre joueur
a fait aussi bien
que lui dans tous les buts? Il est dans le coup. Quand tu reviens contre l'Australie, sa petite talonnade a l'air de rien, mais c'est elle qui fait tout basculer. Ensuite, il met le but de la tête. Le match d'hier, il met les deux buts et allait marquer à la 86e minute dans un match que tu as dominé, que tu mérites de gagner. Néanmoins, le résultat à ce moment-là n'était pas favorable. C'est lui qui te le met. Oui, il est décisif. Et oui, avec un Mbappé à ce niveau-là, tu te dis que tu peux aller très loin. Parce qu'en plus, et là je reviens à ce que disait Manu, si des défenseurs veulent se braquer sur lui, et c'est probablement ce qui arrivera, le fait justement d'avoir d'autres mecs, par exemple un Dembélé qui est capable de percuter de l'autre côté, bah, ça fait plus de gens à surveiller et ça change complètement de notre équipe 2018 où tu avais Mbappé, bon, qui était jeune, à qui on balançait des ballons sur des contre-attaques et on a eu quand même dans plein de matchs énormément de réussites. Il y a beaucoup de matchs, si tu les rejoues, c'est pas sûr que tu les gagnes. Et où tu avais juste lui, Giroud en point de fixation et un Griezmann qui était là, qui était certes
bon sur les coups de pied arrêtés.
Qui était très très bon sur coups de pied arrêtés. C'était assez minimaliste notre jeu quand même si on est allé au bout. Là, je trouve qu'il y a plus de variété. Alors, effectivement, on n'en est qu'au deuxième match. Attention, on sait très bien dans les Coupes du Monde, des équipes qui ont démarré très fort et qui en 8e, sur un coup du sort, sont sorties, ça existe aussi. Mais il n'empêche que là, j'imagine que les autres sélections, au moment d'entrer sur la pelouse, s'ils voient les bleus en face, ça doit flipper un peu quand même.
Et comme disait Manu, si on peut prendre des précautions évidemment sur la suite, mais on constate quand même un truc qu'on n'a pas vu depuis longtemps. À l'Euro 2021, il n'y avait pas aussi autant de limpidité dans le jeu et sur les matchs entre les deux aussi. Donc c'est pour
il n'y avait pas de limpidité dans le jeu, mais il y avait beaucoup de confiance. Après la victoire contre l'Allemagne à l'Euro, après, certes, dans la foulée, la Hongrie, c'était pas terrible, mais grosso modo.
Les difficultés sont arrivées vite. Hein. Le Portugal aussi, c'était pas terrible.
Grosso modo, il y avait quand même beaucoup de combats, mais t'étais sorti.
Mais beaucoup d'occasions concédées.
T'étais sorti d'un groupe très compliqué. Bah, je trouve qu'il y a toujours de la confiance qui habite cette équipe de France depuis des années maintenant. C'est ça. Elle n'est pas toujours justifiée, cette confiance. Là, aujourd'hui, je trouve qu'en restant raisonnable, il y a matière à être confiant.
Moi, je trouve que cette équipe est sûre d'elle quand il n'y a aucune attente au niveau du jeu, en fait. C'est-à-dire que là, on a eu beaucoup de blessés. On s'est dit dans l'adversité, c'est pas grave si on n'est pas flamboyant.
Pas le costume de favori.
Exactement. Avec tous ces blessés, tout ce qui s'est passé avec l'Euro, etc. Tout le monde est prêt à accepter de défendre bas et de partir en contre.
Jean-Louis, ça, c'est un argument de plus à mettre pour les adversaires. De se dire, mais attends, les gars, il y avait beaucoup de questions qui se posaient autour de l'équipe de France avant la compétition, avec un nombre incalculable de joueurs qui déclarent forfait, notamment 4 ou 5 joueurs titulaires de ce 11 en 2018. Donc, quand on voit ce qui se passe depuis le début de la compétition, quand je vois comment certains joueurs sont en train de se révéler, je me mets à la place des adversaires. Je me dis, attends, même à une époque où il y a 4-5 joueurs, ils sont amputés au niveau de leur colonne vertébrale, ils arrivent toujours à avoir des joueurs derrière qui continuent à jouer dans les grands clubs également. Donc je me dis, toutes les inquiétudes que l'on a eues, alors je ne vais pas aller vite en besogne non plus, mais je vois que l'équipe de France monte en puissance. Et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est un mini-championnat. On peut considérer ça comme un mini-championnat de Coupe du Monde. Ça se joue sur 3-4 semaines. Donc il faut monter vraiment crescendo. Tu peux pas être taqué à chaque match du début jusqu'à la fin.
Michel Platini dit une Coupe du Monde, c'est 3 matchs. Donc c'est à partir du quart de finale. Donc effectivement, faut pas partir
Michel,
trop tôt.
Michel, il oublie un truc. Il faut se qualifier pour les poules aussi quand même.
Oui, mais
et
bon.
Et puis, je rajouterais, moi j'ai la sensation qu'ils se contentent pas de ces deux victoires. T'as l'impression qu'ils en veulent encore plus. Et ça, c'est, je pense que c'est un signe positif pour aller, aller vraiment loin dans cette compétition. Quoi.
Ils veulent clairement aller au bout. Ils sont, ils sont dans un état d'esprit très conquérant.
Mais tu sais, des fois, tu dis, tu as deux victoires. Oh, c'est bien, on a gagné deux matchs. Tout le monde s'enflamme un peu. Mais j'ai l'impression qu'à l'intérieur, par rapport aux, aux déclarations, ils ne s'en contentent pas. Ils veulent vraiment aller au bout. Quoi.
Ouais. Johan nous rejoint au 32-16, supporter de l'équipe de France. Salut Johan, bienvenue dans l'intégrale Coupe du Monde sur RMC.
Oui, bonsoir à tous. Merci beaucoup de m'accueillir.
J'ai l'impression que tu veux un peu tempérer notre enthousiasme.
L'enterrer, non, parce que je reste...
Relativiser, quoi.
Je reste français et un peu chauvin. J'ai envie de voir la France aller au bout et gagner. Néanmoins, oui, Kylian Mbappé marque deux buts hier. Je le trouve quand même plutôt décevant par rapport à sa forme habituelle. Beaucoup de ballons perdus, il prend des courses. Alors, il gêne un peu avec Théo Hernandez parce que lui aime bien partir aussi en attaque et prendre le couloir. Donc il y a des transmissions de ballons qui se font pas, du coup on maintient pas le score non plus, on marque le premier but, on se fait égaliser dans les 5 minutes qui suivent.
Il faudrait chaque match 5-0 quoi pour être tranquille. L'adversaire il a pas le droit d'exister. Alors excuse-moi Johan, mais très franchement ton propos, je ne le comprends pas. J'entends depuis hier certaines critiques ou même dans le match d'avance sur Mbappé. Mais en fait, je crois que vous perdez la raison en fait. Vous savez ce que c'est dans un match de Coupe du Monde, un mec qui met deux buts et qui crée autant de choses? Avec Mbappé, on en est à relever un dribble raté à la 42e et à dire, dis donc, s'il avait pas raté ça, c'est, ouais, bah, en fait, s'il rate rien, il met un triplé par match et la France gagne 5-0 à chaque fois. Et on est en train de parler de match de Coupe du Monde, hein, c'est pas un match de championnat contre Bastia, hein.
Ah bah on est bien d'accord, mais après, encore une fois.
Je dis juste que
quand même avec Lucas Hernandez il se gêne beaucoup moins parce que Lucas a tendance à rester un peu plus sur la au niveau défensif plutôt.
Mais il se gêne pas avec Théo Hernandez, ça fonctionne super bien justement.
Il y a plusieurs moments où Kylian prend le couloir, Théo continue d'avancer, il ne transmet pas le ballon.
Il a le droit de pas être content, Daniel.
Mais Johan, c'est
pas que je suis pas content, tant mieux que la France.
Mais ça existe pas un mec qui réussit tout. Enfin, même si t'as fait du sport amateur, même si t'as joué, même si
la question aujourd'hui, elle est, est-ce qu'avec un Kylian Mbappé comme celui d'hier soir, on devient favori?
Bah si, mais deux buts par match, tu seras pas loin d'être champion du monde, parce que deux buts par match, c'est beaucoup.
C'est rassurant, mais on devient pas favori. On marque le premier but.
Bah si, de toute façon, on est favori depuis le début du mondial. Hein. On est des favoris.
Qui tu mets d'autres, du coup, Johan, en favori, toi encore?
J'attends le match de ce soir avec impatience pour voir s'il y a un peu plus d'opposition pour l'Espagne par rapport à ce qu'ils ont connu face au Costa Rica. Mais d'un point de vue du collectif, etc., sans parler du nombre de buts qui ont été inscrits face au Costa Rica, je pense que collectivement, ils sont pour l'instant au-dessus de ce que nous.
Moi, Johan, je pense un truc, c'est que t'as pas envie de tomber de haut. T'as pas envie d'être déçu si on prend un mur. Donc tu préfères voir les petits bémols, t'as pas envie de t'enflammer et du coup, comme ça, tu tomberas pas de haut si on se fait éliminer.
Je serais déçu si on se met éliminé de toute façon. Que nous favori ou non, je serais forcément déçu. Je reste un fervent supporter de l'équipe de France depuis tout petit. Mes premiers vrais souvenirs, c'est la Coupe du Monde 98, hein, j'avais 8 ans. Donc, je suis un fervent supporter de l'équipe de France et j'ai qu'une envie, c'est que la France aille au bout. Mais de là à dire que on est favori avec un Kylian Mbappé avec la forme actuelle, etc. J'espère qu'il montera encore en puissance, que l'équipe montera aussi encore en puissance, que on utilisera le match contre la Tunisie, sachant qu'on est déjà qualifié, comme un match où on va pouvoir corriger peut-être certaines choses, modifier peut-être certains schémas tactiques, et du coup d'effectivement encore monter en puissance pour aller justement chercher cette troisième Coupe du Monde. Et je demande que ça, moi le premier. Hein.
Ok.
Moi le premier.
Bon, Johan, t'avais 8 ans en 98, qu'est-ce que ça te fait de parler à Manu Petit?
J'en suis enchanté. Je l'écoute souvent sur Rotten Sans Flamme avec Jérôme. J'ai déjà essayé d'interagir avec eux, j'avais pas pu être pris à l'antenne. J'avoue que un grand merci à lui pour ce troisième but en finale et un grand merci à lui pour sa carrière.
Merci, tout plaisir à t'es
Johan,
pour moi.
Tu pourras nous rappeler dans un Rotten sans flamme. On te fera une place entre Manu et Jérôme. C'est pas simple, mais on le fera.
Choisis bien les débats
pas.
Quand on se prend vraiment la tête, Jérôme et moi, parce que j'ai besoin d'aide.
J'entends bien, et à chaque fois, je me dis que ça va être compliqué quand même avec Jérôme, qui est très arrêté, qui laisse pas les autres remplacer une pour aller à l'encontre de
Tini. Jérôme,
non, mais t'inquiète pas, Johan, on est là pour ça, et tout le monde arrive à en placer une à la fin. C'est comme ça que ça marche. Salut Johan, à bientôt.
Salut, merci beaucoup.
Et tu peux aussi te faire les podcasts de Roten sans flamme aussi. Hein. Les dernières passes d'armes, Manu Petit, Jérôme Roten, sur Giroud, sur Mbappé, sur tout ça, là, tu peux te régaler. On va laisser les bleus de côté une seconde. Évidemment, vous pouvez envoyer vos messages sur le chat de Twitch, hein, sur la chaîne RMC Sport. Moi, je trouve que tout mettre sur les épaules de Mbappé, c'est pas dingue, nous dit Nindou. S'il fait un mauvais match derrière, bah, on aura forcément un mauvais résultat. On a l'impression quand même que le danger peut aussi venir d'ailleurs, hein, entre Dembélé, Rabiot, on en a parlé tout à l'heure, Griezmann aussi sur ses coups de pied arrêtés.
Dembélé, ça peut venir aussi, d'un
peu Dembélé. Partout. Ouais, Dembélé, ouais. Qui a des jambes en ce moment.